Bonjour, chers amis. Je suis particulièrement ému quand Noémie m'a donné un petit bout de papier tout à l'heure en me disant les noms de ceux qui écoutaient, qui assistaient. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa lumière, sa paix, que vous puissiez trouver vraiment une pleine relation avec lui. Pour ne pas être orphelin sur cette terre. Si vous avez déjà cette relation, mettez du bois dans le feu. Ne laissez pas ce feu d'amour ralentir et se refroidir. Mettez du bois à temps dans le feu. N'attendez pas que les braises soient presque toutes sous la cendre. Voilà, chers amis, en ce dimanche du 3 mai, nous allons continuer les questions que j'ai abordées durant la semaine. Ce sont toutes des questions personnelles adressées à ceux qui sont chrétiens. Je voudrais faire un préalable. Il m'arrive encore de faire des visites, malgré l'interdit, à des personnes isolées. Et j'ai même reçu l'avis de... J'avais demandé à la gendarmerie française comment faire. J'ai reçu des conseils. Je les appliquerai pour visiter l'une ou l'autre personne en France. Je pourrais le faire. Ce qu'il y a, c'est évidemment avec prudence pour la santé de tous et de la mienne. Quand je suis dans la voiture, que j'écoute la musique, j'écoute les émissions, il y a quelque chose qui transparaît à travers toutes les paroles, c'est le désir de liberté. À travers le confinement, les personnes et même les leaders des mass médias ressentent la captivité. Le manque de liberté, et avec le risque qu'on nous prive de liberté à la longue, avec toutes sortes d'interdits et de moyens informatiques pour nous surveiller. Et il y a une réaction à travers ces émissions pour revendiquer la liberté. Et je crois que la liberté est un thème fondamental. Fin de la semaine, je vais aborder ce thème pendant plusieurs semaines, plusieurs jours en tout cas, de la liberté. Et je commencerai par ce qu'est la liberté d'un enfant, d'un nourrisson, la liberté d'un enfant. Et en grandissant, qu'est-ce que c'est que la liberté d'un adulte? Ça, c'est une chose que je pense qui est importante pour qu'on approfondisse ce thème de la liberté, pour bien comprendre ce que c'est. Que ce ne soit pas un slogan ou quelque chose de bâclé, qui pour finir nous prive de liberté, quand c'est mal compris. L'autre chose, plus tard, au mois de juillet et août, je voudrais aborder, je rencontre beaucoup d'incroyants. J'ai été dans une école où il y avait plein d'incroyants. Et je suis très sensible à la situation des incroyants. Et même de ceux qui se disent, ayant une confession religieuse, musulmane ou catholique, ou peu importe, même des protestants, et qui en fait ne connaissent pas Dieu. Et je voudrais aborder toute une série de questions, comme je fais là aujourd'hui pour les croyants, des questions que se posent des incroyants, et comment y répondre. Je voudrais aborder ce sujet, c'est un long travail, ça sera sur le mois de juillet, le mois d'août, à part une semaine peut-être, ou deux, si je suis absent. Voilà le programme pour plusieurs mois d'avance. Dieu voulant, ma femme ajoute Dieu voulant, mais moi je sais que Dieu me le demande. Alors, pratiquement, c'est dans ma conscience que tout ça je l'ai dit. Aujourd'hui, nous allons continuer les questions qui ont relation plus à la vie du chrétien. Suite à Pâques, nous savons que Jésus est ressuscité. Jésus est vivant et qu'il est dans la vie du chrétien. Donc, c'est une thématique fort importante, c'est la victoire du Seigneur ressuscité dans la vie du chrétien. J'ai posé plusieurs questions. Avez-vous été choisi par Jésus? On a lu des textes. Avez-vous été donné par Dieu le Père à Jésus? Encore des textes que j'ai médités avec vous. Avez-vous aimé Jésus? À un moment donné. Avez-vous l'assurance que Jésus est devenu votre ami? Et êtes-vous pleinement convaincu que vous l'aimez? Ça, c'était la quatrième question. Cinquième, avez-vous l'expérience que Dieu et que le Christ vous conduit parfois là où vous ne voulez pas, dans des directions que vous n'auriez pas voulu prendre ou que vous ne voudriez pas prendre? C'est une expérience très importante. qui montre que la foi en Dieu n'est pas narcissique et n'est pas basée sur notre jeu et sur quelque chose d'illuminé ou d'intuitif ou d'autosuggéré. La liberté de Dieu dans ma vie de croyant, qui parfois me conduit là où je ne veux pas. Alors, et souvent d'ailleurs. Alors, la sixième question, êtes-vous une brebis de Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux types de brebis. Sept, mettez-vous votre confiance dans votre humanité, dans votre tempérament, votre personnalité, votre éducation, votre culture, votre chair, comme dit la Bible. Huit, où est le meilleur de vos mondes ? Dans vos rêves, dans vos pensées, dans vos projets, c'est quoi le meilleur des mondes pour vous? On l'a abordé aussi. Tout ça est enregistré et sera sur le site de l'Église dans quelques jours. Que sort-il de votre cœur? Que sort-il de votre cœur? Quand vous, à un moment donné, vous vous rendez bien compte, il sort quelque chose de votre cœur. Que sort-il? C'est extrêmement important. De peser cela, d'avoir une espèce, non pas d'introversion, mais d'examen de sa conscience. 10. Acceptez-vous les décisions de Dieu sur votre vie? Alors, où est la vérité de chaque instant pour vous? Si vous êtes chrétien, où est la vérité à chaque instant de votre vie? Où se trouve-t-elle? Je vous ai expliqué que c'était l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui est en nous, qui doit nous conduire et qui nous conduit si nous nous laissons faire. Donc la vérité n'est pas quelque chose de humain et de personnel, elle est un don divin, c'est la personne même du Saint-Esprit. Et verset 12, de quoi vis-tu? De quoi vis-tu? Alors, aujourd'hui, je suis à la question 12, de quoi vis-tu? Quelles que soient les circonstances, favorables ou défavorables, pour moi, tu as toujours le choix de choisir ce pour quoi tu vis. Je me rappelle, j'avais un professeur, Georges Bouillon, à l'Athénée, et puis plus tard, j'ai retrouvé les mêmes propos chez un théologien au séminaire. La plupart des gens pensent comme ils vivent et ne vivent pas comme ils pensent. Donc on finit par se conformer à son mode de vie et à cautionner son propre mode de vie et on se donne des pensées qui agréent le mode de vie dans lequel on s'est laissé couler. Mais il y a bien sûr pour moi toujours un choix, toujours un choix. Il y a fondamentalement la possibilité de choisir en nous. Donc, quelles que soient les circonstances, favorables ou non, tu as le choix. De quoi vis-tu? Alors, dans le confinement, prenons Deutéronome, chapitre 8. Le Deutéronome, c'est le cinquième livre de la Bible, écrit par Moïse. Donc, en 1320... 1340 avant Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 16. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver. Donc, c'est une image, bien sûr, pour nous aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas hébreux, nous ne sommes pas dans le désert, nous ne sortons pas d'Égypte, nous n'allons pas dans le Canaan, en terre d'Israël. Mais cette thématique du désert, de l'épreuve, est clairement exprimée, elle convient. Et vous savez, Charles de Foucault, dans le catholicisme, a vécu dans le désert après avoir une vie extrêmement dissipée avec les femmes. Et il y a eu énormément de moines d'ermites qui, après avoir eu une vie très dissipée, voulaient renier tout ça et se purifier. C'est pour ça qu'il y a eu des monastères dans le monde orthodoxe, etc. Et la pratique de l'ascèse. Mais ce n'est pas à ce niveau-là, figuratif et démonstratif. C'est intérieur, ici. Afin de t'humilier, de t'éprouver. Dieu t'a fait faire, pendant ces 40 années, un chemin extrêmement difficile dans le désert. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Je pense, mes amis, que ça convient même pour un incroyant qui m'écoute aujourd'hui, ou qui est à moitié croyant, ou pour un croyant, c'est, on passe parfois des dizaines d'années, est-ce qu'on tourne en rond, on fait des zigzags, en tout cas, et on doit savoir, on doit connaître nous-mêmes les dispositions de notre cœur, on doit arriver à connaître notre cœur, on doit pouvoir en faire un bilan. Ça s'appelle l'examen de conscience, le libre examen, etc. Je me rappelle toujours un professeur de philosophie qui me disait « La vie de tout humain, c'est un zigzag comme un accordéon. Si on tire dessus, à fond, ça fait une ligne droite. Et c'est Dieu qui tire sur la ligne, qui fait des zigzags et qui finit par en faire une ligne droite. » Mais ça passe par des épreuves. Verset 3 « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche éternelle. » Et nous pouvons continuer, je vais encore lire un verset ou deux, mais je n'irai pas plus loin, mais la Bible est pleine d'enseignements dans ce genre. « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. » Là, vous avez quelque chose d'extrêmement particulier. C'est l'image d'un enfant qu'on corrige pour en faire quelqu'un de profond, qui puisse examiner sa propre conscience. Vous comprenez que c'est la base de l'éducation, en principe. Qu'un enfant puisse examiner sa propre conscience. Et c'est pour ça que parfois, il y a des châtiments, des récompenses, etc. Il faut pouvoir aménager cet examen de conscience chez l'enfant. Quand l'enfant ne l'a pas, c'est un désastre plus tard. Alors, si on a aménagé cela dans son cœur et que plus tard il s'égare, il reviendra toujours à ce cœur d'enfant qu'on a amené à connaître, qu'on a établi en lui par l'éducation. Et Dieu a cet art de nous éduquer. Dieu a cet art de nous éduquer. Donc, je dirais, de quoi vis-tu ? Ben, je vis sous le regard d'un éducateur divin qui connaît bien la disposition de mon cœur et qui veut que je les voie, que j'analyse mes dispositions de cœur. Et que de là, je prenne des décisions responsables, des résolutions. Voilà, de quoi vis-tu ? Dans le confinement, quelle que soit la situation, ou dans l'abondance, c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous châtier comme son enfant. De quoi vis-tu devant la nourriture ? La nourriture semble être quelque chose d'absolument, absolument vital. C'est une institution dans nos pays, ici en Europe. Ne parlez pas, en France et en Belgique, de se priver de manger et de boire. Vous serez pris pour un fou. Ça peut arriver que de temps en temps vous rencontrez quelqu'un qui accepte de faire un jeûne, mais, en général, on se rattrape toujours. Parce que nous avons été éduqués à bien manger, à bien boire. Et je pense que c'est commun à tous les hommes, sauf en période de disette. Les périodes de disette sont des périodes qu'on n'a pas choisies, dans lesquelles parfois on a un repas par jour, ou à peine. Ce qui risque peut-être d'arriver d'ailleurs. Alors, Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, donc de Jésus-Christ, et cette façon de gouverner notre cœur, le cœur des croyants, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Jésus-Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Et puis, je vous laisse continuer à lire si vous voulez. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait sur terre ? Pour avoir à manger et pour gaspiller autant en Occident, on le prend chez les autres. Est-ce que ça plaît à Dieu ? Hein ? Ce n'est pas une façon d'être approuvé des hommes et ce n'est pas une façon d'être agréable à Dieu. Le manger et le boire doivent être extrêmement respectueux des autres. Et ça ne doit pas être un acte d'égoïsme, c'est un acte pour vivre, mais c'est un acte de partage, c'est un acte convivial, c'est un acte d'échange et de respect mutuel. On ne peut pas manger et boire devant Dieu quand on a la foi sans respecter les autres et sans partager avec les autres. Et évidemment, on ne partage pas seulement le manger et le boire quand on est croyant, mais on partage la justice, c'est-à-dire la sainteté de Dieu, sa paix, sa joie par le Saint-Esprit. On partage tout cela. Le royaume de Dieu est fait de cela. Donc, de quoi vis-tu ? Vous avez là un programme, c'est un programme immense et éternel d'ailleurs. De quoi vis-tu dans ton cœur ? Regardons dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. De quoi vis-tu dans ton cœur ? Le cœur est le siège de toutes les décisions. C'est là qu'on chipote, on prépare tout et qu'après on prend des orientations, bonnes ou mauvaises. Et c'est extrêmement important. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. C'est une grande source de gain, donc de gain de progression spirituelle, d'épanouissement et aussi d'avancer vers Dieu. Et d'avancer vers les autres. De manifestation de la grâce envers les autres. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété, c'est la foi, la relation vivante avec Dieu, et le contentement, se savoir se satisfaire de peu. S'il y a beaucoup, on a beaucoup, mais s'il y en a peu, on est aussi content. Se savoir content avec quoi qu'il arrive, quoi qu'on mange, quoi qu'on ait dans le portefeuille. Content parce qu'on est avec notre Seigneur et que notre Père des cieux est comme un papa, nous sommes son enfant. Et nous nous situons comme un enfant envers un papa qui nous aime et qui aura toujours une solution pour notre problème. Ça, c'est l'enfant. Il se rapporte vers son papa dans ce sens-là. Et le croyant, c'est ainsi. C'est cela la piété, c'est cela le contentement. C'est extrêmement important, les amis. De quoi vis-tu aussi ? Dans ta relation avec Dieu. Lisons Luc 15, 21. C'est l'histoire d'un... Il y avait une famille, un papa qui aimait bien ses deux fils, et ses deux fils, ben il y en a un qui est très sérieux, qui dirige ses affaires, son travail, etc. Bon, quasiment on n'a aucun reproche à faire. Il est réglementaire, il suit les consignes. Et il est persuadé qu'il est dans le bon. L'autre, il demande son héritage, et puis il va le galvauder avec les femmes, etc. Il fait n'importe quoi. Quand il est en train de souffrir, qu'il est en pays étranger et qu'il est entouré de la misère totale, il décide au verset 18, « Je me lèverai, Luc 15, 18, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Donc il y a un bilan qui est fait, un bilan honnête entre lui et Dieu, c'est un bilan personnel. Je pense que quand nous vivons réellement, quand nous sommes des hommes ou des femmes dignes de ce nom, à un moment donné, il y a un bilan qui se dresse en face de Dieu. Ce n'est pas pour les beaux yeux de madame ou de l'épouse ou du mari ou des enfants. Ce n'est pas pour les beaux yeux du pasteur ou du curé. Ça n'a pas d'importance. À un moment donné, c'est vital, c'est entre Dieu et soi-même. C'est le moment de jonction où on rétablit la relation et dans la vérité. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Alors, il va bien sûr vers le papa, mais le papa, lui, il attend depuis longtemps, lui. C'est donc notre Dieu. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Compassion, il souffre avec son fils. Il souffre avec lui. De l'état, il voit son fils tellement malheureux qu'il en souffre lui-même. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Donc là, il se dégrade. Une deuxième fois, il s'est dégradé en se conduisant mal, mais il se dégrade une deuxième fois. Il se condamne lui-même, alors que le père ne le condamne pas. C'est ça qui est horrible. Dans le péché, dans l'égarement, on a toujours, tant qu'on n'a pas vraiment connu Dieu, on a le sentiment qu'on n'est plus digne de Dieu, on ne peut plus se présenter devant Dieu, on n'en vaut pas la peine, et on porte une autocondamnation. Ça, c'est dangereux, c'est très mortel. C'est très mortel, ça peut durer, ça. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous voyons que Dieu a un plein amour pour ce fils, et va lui chercher le plus beau vêtement, lui met un anneau au doigt, donc l'alliance, la réconciliation, des souliers aux pieds, donc il lui redonne le zèle, l'art de vivre, le courage, et puis il amène un veau gras, donc on va faire un bon repas, on aura le temps de se parler, de se réconcilier, on ne va pas regarder à ce qui n'a pas été, on ne va pas regarder aux égarements, on va regarder à l'amour qu'on a entre nous. Et on va surtout le célébrer. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, c'est-à-dire nous étions dans une complète séparation, une relation zéro, et il est revenu à la vie, relation 100%. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. La base de quoi vis-tu, ma question est très importante, dans ma relation avec Dieu, c'est de ne pas s'auto-condamner, c'est de ne pas s'auto-sacrifier soi-même, se flageller soi-même, c'est de connaître le véritable amour de Dieu et de l'accepter, de se laisser aimer. De se laisser aimer et d'accepter la réjouissance, la réconciliation que Dieu m'offre. Comment me l'offre-t-il ? Ben, par Jésus. Jésus est venu pour tout le monde. Il a visité tout le monde, dans les banquets, dans les publicains, les pêcheurs, les prostituées, tout le monde. Et pour moi aussi, pour vous aussi. Donc Jésus est l'ambassadeur de la réconciliation, il est venu pour ça, pour établir la paix entre Dieu et nous et pour que le mur qui est entre Dieu et nous disparaisse. C'est quoi un mur de condamnation, un mur de culpabilité, un mur d'égarement? Supprimer la mort, c'est-à-dire la relation zéro, donner la vie, la relation 100%. C'est extrêmement important. Deuxième à Timothée, chapitre 3. L'évangile est très pratique, les amis, et parle au cœur. Et je pense que tout ce que j'essaye de faire à travers mes questions, c'était de faire un message qui convient aux chrétiens et aux non-chrétiens, à ceux qui sont à mi-chemin, à quart de chemin ou à 95% du chemin, peu importe. Mais jamais personne n'est arrivé totalement. Celui qui s'en vanterait leur dégringolerait très vite. Deuxième à Timothée, chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, c'est-à-dire en relation de vérité avec Jésus-Christ, seront persécutés. Donc, il y aura toujours une opposition. Nous sommes dans un monde qui n'aime pas qu'on se réconcilie avec Dieu. Il y a une forme de jalousie, d'opposition qui naît automatiquement, de moquerie, etc. Il y a une réaction malsaine vis-à-vis de celui qui se réconcilie avec Dieu par Jésus-Christ. Mais il ne faut pas s'en affoler. Avant d'être réconcilié, chacun de nous faisait la même chose pour les autres. C'est une maladie propre au péché d'Adam et Ève en nous. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc il y a bien sûr des personnes qui choisissent de s'enfoncer encore plus dans l'opposition. Mais pas tous. Pas tous. Pas tous. Et sûrement pas vous, puisque vous écoutez. Verset 14. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Donc, il faut savoir que Timothée a été enseigné par sa grand-mère et sa mère dans la Bible. Bon, vous avez peut-être mené une vie sans Dieu, mais vous avez reçu, avant, vous avez reçu des enseignements. Eh bien, c'est ça. Je voudrais vous raconter une chose pour vous dire... notre maison, c'est une maison un peu spéciale, bizarre. Je reçois un berger d'Épinal qui ne pouvait plus marcher, peut faire son métier, et bien sûr je prends des textes de la Bible, je prie avec lui, et puis il part. Plusieurs années après, j'ai un coup de téléphone d'un marchand de vin, un homme extrêmement grand et très gros, et costaud, hyper costaud, mais tellement costaud qu'il en devenait malade. Parce qu'il était un bon vivant, Il était venu avec son camion, son chauffeur et sa femme, assis entre les deux dans le camion. Et bien sûr, un dépôt de vin énorme dans le camion pour livrer à droite et gauche ici en Gaume, parce qu'on est des bons peinteurs ici, et dans le Luxembourg. Alors, il m'a dit, mon copain d'Épinal remarche. Vous avez lu la Bible avec lui, vous avez prié avec lui, et il remarche. Je voudrais bien que vous priez pour moi. Ça y est. De là à me prendre pour un thaumaturge, un guérisseur, vous voyez. Et avant qu'il arrive, j'avais beaucoup prié et j'avais choisi trois passages dans la Bible, dans l'Évangile. Tout ça, ça se passe dans mon cœur, dans mon âme, sans que je ne sache pourquoi, mais quand il arrive, je suis prêt. Et il s'installe dans la salle de culte avec sa femme qui était extrêmement rigide, qui n'était à mon avis pas d'accord de venir, mais lui il n'en pouvait plus, il craquait comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait avoir, peut-être 75 ans, 75 ans, je ne sais pas, une force de la nature, et je lui dis, écoutez, mon cher ami, je vois que vous venez parce que vous ne savez presque plus marcher, et tout ça, vous venez pour que je prie pour vous, oui. J'aimerais bien, comme mon copain d'Épinal, remarcher convenablement et continuer à vivre. Écoutez, mon cher ami, je vais vous dire. J'ai choisi trois textes, j'ai prié pour vous, je vais vous les lire. Pour moi, c'est l'essentiel. Je lis les trois textes de l'Évangile, de façon courte, et puis tout d'un coup, il commence à sourire et à rire, il dit, mais quand j'étais gosse, c'était les trois textes que j'adorais le plus. Alors, je regarde. Et vous aviez quel âge? Ben, 7-8 ans, 9 ans. Et vous en avez combien? Ben, 75, 76. Vous vous rendez compte? Vous avez passé 68 ans de votre vie à piétiner quelque chose que Dieu avait mis dans votre cœur, qui réjouissait votre cœur, qui vous faisait du bien. Vous avez passé du temps à cracher dessus, à cracher dans la soupe. Alors que Dieu vous aime, et vous avez mis ces textes pour vous faire du bien. Vous revenez ici à Gombry, chez un petit pasteur, une petite église, et qu'est-ce qu'il vous remet sur le plat? La même nourriture que Dieu vous avait donnée, étant petit. La nourriture de sa parole. La parole a réjoui votre cœur. Eh bien, ces trois textes-là, je vous en supplie, vous allez les relire tous les jours, vous allez prier, demander pardon à Dieu, votre papa du ciel vous aime, demander pardon pour toutes ces années-là, à faire le bon vivant, l'ignare, je vais dire, le pêcheur, et puis pratiquement, sachez qu'il vous ouvre les bras. Il vous ouvre les bras. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, j'ai prié avec lui, mais après, pour bien sûr sa repentance, sa conversion, ce qu'on appelle conversion, et je n'ai pas demandé qu'il soit protestant ou catholique, peu importe, ça ne m'intéresse pas, c'est Dieu qui fera dans son cœur. Et ensuite, j'ai dit, on va prier pour vos jambes, votre santé, puisque vous êtes venu pour ça. Alors j'ai prié pour lui, etc., avec lui et devant Dieu, devant le Seigneur. Et je pense que ça allait beaucoup mieux, parce qu'il ne s'est plus jamais plaint de sa santé. Je suis allé en Alsace et tout. Ceux qui avaient encore quelques problèmes, parfois me rappelaient. Et lui, non, c'est sans aucun intérêt de ma part. Je ne suis pas intéressé par tout ça, je suis simplement content qu'il ait retrouvé son Seigneur à travers l'Évangile. Et si Dieu a fait du bien dans sa santé, je suis content pour lui, qu'il ait découvert l'amour de Dieu pour lui et qu'il ne s'en moque plus. Voilà, ça c'est quelque chose. De quoi vis-tu? Quand on a eu la foi étant petit, on peut avoir mis tout de côté et pourtant il reste des braises en dessous de la cendre. Quand on va dans la forêt et qu'on fait des feux, on coupe des arbres, on coupe des branches parfois, et on fait tellement un gros feu qu'il y a 20 cm de cendre grise, et puis on tire tout ça, on retrouve des braises, on rallume un feu, même après 3-4 jours. Bien, c'est la même chose pour la foi. De quoi vis-tu? Tu vis de ce que Dieu avait déposé en toi, étant enfant souvent, de vie de la vie de Dieu. Mais pourquoi la méprises-tu? Ce n'est pas une bonne raison de te faire souffrir toi-même. Inutilement, car Dieu n'a pas voulu que tu souffres et que tu tombes dans le malheur et le péché et fasses du mal aux autres et à toi-même. Voilà. Alors, J'ai d'autres textes. Matthieu 6. Je trouve Jésus et notre Père des cieux merveilleux. Merveilleux. Avec toutes ces visites, ces gens d'un peu partout, et ce qui s'est fait, je trouve cela merveilleux. La façon dont il fait quelque chose dans leur vie. Et je suis heureux, heureux de servir le vrai Dieu vivant qui aime les hommes. Je ne sers pas une religion, une institution. Je sers le Dieu vivant et Jésus-Christ son Fils. Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, c'est-à-dire que tu veux parler à Dieu, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le secret de ma vie, le secret de mon cœur, il y a combien de choses qu'on n'oserait pas dire à son conjoint, à ses enfants, etc. Ou à papa, à maman. Un de mes enfants m'a dit un jour, « Papa, si tu savais tout ce que j'ai fait, je n'oserais jamais te le dire. » Mais c'est pas grave, j'ai répondu à cet enfant. Dieu ne me voudra plus jamais avec tout ce que j'ai fait. Mais c'est pas vrai, tu ne le connais pas encore. Quand tu verras qu'il t'aime et qu'il t'accepte comme tu es, alors tu pourras dire que tu le connais. Et tu ne parleras plus comme ça. Donc dans la prière, je pense qu'on s'adresse en exposant son cœur, en exposant tout ce qui est là, des bonnes choses et tout, et les poubelles de notre cœur. Comme je vais dire, comme un vieux pasteur m'avait dit, heureusement, c'est un vieux pasteur que j'aimais beaucoup, pour qui j'ai été rendre de service, travailler dans son église, il m'a dit, heureusement qu'il y a le camion vidange et assainissement des fosses septiques. Ah oui ? Ben oui, Jésus-Christ pour moi. C'est le camion vidangeur et assainisseur de mon âme. Donc quand on va prier, assainissement et vidange de la fosse. Et ton Père te rendra pur et propre. Je suis peut-être un peu rigolo en disant tout ça, mais je le crois fondamentalement. Nous avons besoin de cure d'âme, c'est Jésus qui l'a fait. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça, c'est du bidon, c'est de la comédie. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. De quoi ai-je besoin ? De Jésus-Christ, c'est lui le médecin de mon âme, c'est mon ami, c'est mon berger, c'est mon sauveur, c'est mon amoureux, c'est mon sauveur. Et voilà, votre Père sait de quoi vous avez besoin, c'est de son Fils. C'est pour ça que Jean, dans son épître, dit « Celui qui a le Fils a le Père ». C'est tout simple, enfin pour moi ça paraît tout simple. Alors, je l'espère que ça sera, ou que ça l'est déjà. Dans ta vie spirituelle, de quoi vis-tu ? Éphésiens 6. Éphésiens 6. Mes chers amis, il n'y a pas d'amour sans humour. Quand je vous explique des choses, moi j'ai besoin d'être joyeux, besoin de blaguer, mais ce qu'il y a tout en étant sérieux à d'autres moments. Et je ne suis pas meilleur que n'importe quel. C'est simplement le Seigneur qui est meilleur dans ma vie et qui peut être le meilleur dans votre vie ou qui l'est déjà. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, c'est-à-dire en conclusion, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Combien de gens dépressifs dans mes contacts, de gens qui ne s'en sortent pas, qui sombrent, qui ne savent pas où ils vont, et qui vont aller voir des psychiatres, des psychologues, prendre des médicaments, ou des thérapeutes, ou des occultes, hein, faire de l'hypnose, etc., faire de l'énergie, des séances énergétiques. Écoutez, tout cela, pour moi, c'est éviter l'essentiel. Fortifiez-vous par le Seigneur Jésus, dans la personne de Jésus. Par sa force toute puissante. Jésus est tout puissant. J'en ai eu l'expérience souvent, dans des témoignages. Peut-être que je mettrai un jour sur le site de l'Église. Mais en tout cas, il est extrêmement puissant. mais doux et bienveillant. Il n'exerce pas sa puissance avec la violence, avec la méchanceté et avec la crainte, la culpabilisation. C'est une force de bienveillance et de sainteté et une force de sanctification en nous. Donc regardez bien, parce qu'il y a quelque chose pour lequel il faut être fort. Il y a deux éléments. Verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, donc de la personne de Jésus-Christ, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc, nous avons quelqu'un qui est très rusé, qui nous envoie des fantasmes, des pensées, des désirs, des convoitises. Mais c'est dingue, on peut en être dingue de ces convoitises, de ces fantasmes. Ce sont des puissances, ce sont des messages de Satan. Nous sommes comme un téléphone portable, nous recevons de tout. Et à nous de trier. Choisissons ce qui vient de Dieu et le reste, poubelle, il faut effacer. Et pour ça, pour cela, il faut avoir cette force toute puissante de Jésus en nous. Parce que par nous-mêmes, on est trop faible devant tous ces messages, tout ce qui vient nous solliciter. Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples, « Délivre-nous du malin, ne nous soumets pas à la tentation », c'est-à-dire au tentateur, « Délivre-nous du malin ». Chez les catholiques, « Délivre-nous du mal », mais dans le texte en grec, c'est du malin, c'est de Satan. Verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc en nous, pour pouvoir vivre, il faut le contre-pouvoir. Il y a un pouvoir sur ce monde qui est à Satan pour le moment, et à ses acolytes, les démons. Et il faut le contre-pouvoir. Nous avons un contre-pouvoir tout à fait accessible, c'est Jésus-Christ ressuscité. Si je n'avais pas fait l'expérience du contre-pouvoir, je serais déjà mort maintenant. Dans certaines situations, j'ai été menacé de mort. Et donc, c'est grâce à Jésus-Christ, qui a un pouvoir supérieur à Satan, que j'ai fait l'expérience de pouvoir continuer à vivre. Alors, de quoi vis-tu avec les autres ? Avec les autres, comment vis-tu ? 2 Timothée, chapitre 2. Avec les autres. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Quand je suis avec les autres dans la société, que ce soit déjà à l'école primaire, tout petit, déjà en maternelle, quand je regarde la télévision, tout ce qui se passe là, papa et maman sont séparés ou sont occupés, peu importe, on me met devant tous les écrans, hein, possible et inimaginable. Du moins qu'on n'entend pas crier, qu'on ne casse rien, on peut regarder n'importe quoi, à peu près. Mais après, c'est en primaire. Et on regarde ensemble dans le coin de la cour, sur un téléphone, un smartphone, des choses vilaines. Dans le secondaire aussi. Je n'ose pas aller plus loin. Mais il y a des choses vilaines qui passent par les smartphones pour les enfants. De la pornographie, des sollicitations incroyables et des dialogues. Il y a des gens qui leur apprennent le vice. Il y a des relations de perversion. Alors, étant adulte, il n'y a pas de doute, ça existe. Hein. Alors, on sait depuis longtemps. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Il faut rechercher les gens qui parlent à Dieu avec un cœur pur, donc qui ont Jésus. Ce n'est pas forcément quelqu'un de bigot. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va se mettre à genoux devant une statue avec des bougies. Je n'ai pas dit que ce n'était pas, hein, mais ce n'est pas forcément. C'est quelqu'un surtout qui va dans sa chambre et qui parle avec son Dieu. Et qui invoque, c'est-à-dire il élève la voix vers lui, il a une relation. Fouille les passions. C'est quoi une passion ? Une passion, c'est quelque chose qui va au-delà du désir. C'est quand j'ai dit oui au désir ou une convoitise, un message qui vient d'au-delà, du monde des ténèbres, et je suis mobilisé, effectivement, mais aussi par ma thyroïde, par les surrénales, par l'adrénaline, par la testostérone ou par les hormones féminines, je suis mobilisé, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Je suis comme un train fou, je vais au bout des rails, il n'y a plus rien, mais j'y vais. C'est ça la passion. La passion ne permet plus le contrôle par l'esprit et par la raison. Les amis, c'est l'éloge qu'on en fait partout. Quand on voit des chants, etc., je vais citer aucun animateur de télévision, surtout en France, mais un peu partout, en Allemagne aussi. Mais on allume les passions, on les entretient, comme si c'était source de liberté. Mais les passions sont source d'enchaînement. Et j'étais au séminaire, le chanoine Victor Jacques m'aimait beaucoup, et c'était à la fin, vers mon théologie, nous avions une relation profonde, nous deux. Il me dit, Jean, tu dois faire attention à une chose. Je vois que tu aimes Dieu, que tu aimes le Seigneur. Je lui avais dit que j'aimais bien passer beaucoup de temps, que j'espérais passer 2 à 3 heures tous les jours avec lui tout seul, que c'était mon objectif dans ma vie, et le servir. Et il m'avait dit, Jean, il y a quelque chose de redoutable, de faire attention. Ne te laisse jamais prendre par les passions. Cet homme-là m'a dit quelque chose qui m'a touché. Et bien sûr, j'ai été voir ce que c'était que les passions. Ça devient une passion, touche l'esprit. De l'esprit, ça alimente les désirs, les convoitises. Et puis, ça mobilise la physiologie. Ça y est, la thyroïde, les glandes surrénales, tout le reste se met en route. C'est le grand volcan. Et paf, badaboum. On n'a même plus celui qu'on aurait voulu être. On devient un autre. Et ce que je veux dire, c'est que dans ce texte-là, fuit les passions, il faut fuir. Comme il y a un incendie ou une bombe qui explose, on fuit. On ne reste pas à côté. Ensuite, verset 23, repousse les discussions folles et inutiles. C'est le même mot en grec. Repousse. Quand tu entends des gens qui déconnent sur tout ce qui est en dessous de la ceinture et tout ce qui est pervers, va-t'en. Un journaliste belge demandait un jour à un speaker français, mais comment ça se fait que vous parlez toujours d'affaires de... Hein, en dessous de la ceinture en France. Alors, le speaker français lui répondait, mais vous savez, en France, la vertu est triste, on n'en a pas besoin. C'est complètement faux. La vraie vertu est joyeuse. La vie en Jésus est joyeuse. C'était la vertu de ceux qui se flagellaient, de ceux qui vont dans les couvents, etc. La vertu enseignée à la méthode religieuse. Ce n'est pas cette vertu-là que Jésus a amenée. Ça, c'est une déformation de la vertu. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Ah, donc, après, quand on s'est bien souillé dans les bonnes blagues et tout le reste, on finit par être querelleur. Alors, c'est la stratégie de la chute. Ça, c'est pour ça que je vous le dis, quand on vit avec les autres, il faut savoir qu'à force de fréquenter des gens qui vont toujours vers le bas, on finit par tomber soi-même. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul dit, attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ce brave enfant, un de mes enfants, m'a dit ça, tu avais raison papa quand tu me l'as enseigné, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Alors, je ne lui ai jamais fait la morale. Ça sort de lui-même, de son cœur. C'est un bilan qui se fait. Donc, on vit par un examen de sa conscience et on avance par une conscience qui s'examine et on cherche à se corriger. Alors, on se corrige comment ? 2 Timothée, chapitre 3. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est-à-dire obéissant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, c'est-à-dire la sainteté, l'obéissance à Dieu. Et afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne action. La transformation de l'homme se fait par la parole de Dieu. Voilà. De quoi vis-tu ? C'était la 12e question que j'avais à vous proposer. C'est quand même costaud. On pourrait passer 5 jours là-dessus. La 13e question que j'ai à vous poser, avez-vous l'expérience intime et profonde de l'amour des autres, de l'amour des frères et des sœurs qui croient en Jésus-Christ ? L'amour des frères et des autres, ou bistrot, ou terrain de football, dans les marches à pied avec les baguettes là, hein, etc. Sur la plage en Grèce ou en Pyrénées dans les montagnes, oui, ça a l'air d'être un amour fraternel. Ça dure ce que ça dure. Et bien sûr, quand un ou l'autre meurt, décède, on pleure, on a perdu un bon copain, une bonne copine. Ce n'est pas de cet amour-là, ça c'est un amour humain que je trouve magnifique. Il est parfois extrêmement positif et il apporte parfois énormément de bien aux hommes. Parfois, il entraîne tout le monde à la bêtise. Hein. Il faut savoir où est la limite. Hein. Si on se conforme à tout le monde, ça ne sert à rien. C'est un amour fraternel stupide. Comme dit Esaïe au début de son livre, il dit « Stupide, jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité ?» Donc, on peut avoir un amour des autres sans être stupide. Je le concède, il n'y a pas besoin d'être croyant pour avoir de l'amour des autres. J'ai rencontré des incroyants, plein d'amour pour les autres. Tant qu'ils ne tombent pas dans la stupidité, de la conformité et du conformisme sociologique. Plaire à tout le monde pour se croire bien et être bien. Ça, c'est la gaffe monumentale, c'est la faiblesse du caméléon qui change sa couleur suivant le terrain où il est. Maintenant, c'est pas de ça. Il y a des vrais athées, des vrais incroyants qui aiment les autres. Et ça, j'ai plein de respect. J'en ai rencontré. J'ai eu dans ma vie un cadeau formidable quand j'étais à l'Athénée. C'est qu'un professeur incroyant, mais qui canonnait à tout coup sur les curés et les bonnes sœurs, hein, qui habitaient dans la rue de Vieux-Virton, et que certains connaissent, eh bien cet homme était très, très cultivé, il m'épatait par tout ce qu'il racontait. J'ai sorti de l'enfance avec lui.
Je suis sorti
de l'enfance. Mais pratiquement, le grand cadeau, c'est qu'il voyait que j'avais la foi, il ne s'en moquait pas. On était à 2 sur 40 à voir cet amour de Dieu, de Jésus, une jeune fille de Étal et moi. Et il avait repéré, hein, il connaissait tous ces gaillards en face de lui. Et le cadeau qu'il m'a fait, c'est de me faire rencontrer Robert Oppenheimer, celui qui avait travaillé à la bombe atomique et qui avait abandonné les études scientifiques. Parce qu'il avait vu que les Américains voulaient faire éclater la bombe sur les Japonais. Robert Oppenheimer, il me l'a fait rencontrer. Ensuite, le père Pire, un père assomptionniste ou rédemptoriste en blanc, qui faisait des œuvres, des projets de développement dans les pays musulmans au Pakistan et au Bangladesh. Formidable. Ensuite, Yvon Zondak, qui était un ancien professeur de Abbé la Vieille et qui était parti vivre avec les Indiens au Chaco. Ces trois rencontres-là m'ont touché profondément. Et c'était un cadeau de cet homme. Un autre professeur de l'Athénée qui habitait à Thu, tous les temps de midi, au lieu d'aller perdre son temps dans le restaurant ou de causer parfois de la pluie du beau temps avec ses collègues, nous prenait 2 à 3 fois par semaine dans une salle, amenait son tourne-disque, nous faisait écouter du Bach, de Beethoven, de tout, du Vivaldi. Et il nous disait de nous asseoir et de mettre notre tête sur le banc et d'écouter. L'amour du beau, l'amour du beau. Combien de fois on était quand même un certain nombre à aller là, au lieu de s'embêter dans la cour. Et il nous entraînait ensuite, de temps en temps, en bus, à Luxembourg, au conservatoire, pour écouter des grands concerts. Donc, vous voyez, moi j'ai un bon souvenir d'un certain nombre de professeurs athées, et qui m'ont apporté des choses magnifiques. Donc je n'ai rien contre l'athée qui ne se conforme pas à la bêtise, mais qui cherche le beau et le vrai. Je suis prenant tout de suite. Mais l'expérience des frères, c'est-à-dire de ceux qui ont accepté Jésus, et qui prétendent être enfants de Dieu, qui veulent être chrétiens, c'est cela que je pose la question. Avez-vous l'expérience de l'amour fraternel en Jésus-Christ? Luc 13. Verset 6. Luc 13, verset 6. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Je pense que Dieu est patient avec nous. Nous pouvons être très longtemps un arbre sans fruit. Très 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 longtemps, plus que 3 ans. Parfois avec un 0 ou encore un 2 devant. On peut être, hein, faut vaincre. On peut être nul de nul, ne pas avoir donné de fruits comme Dieu le voulait, même en se disant chrétien. Qu'on soit athée, mais aussi en se disant chrétien. Un chrétien sans fruits, ça existe beaucoup. Et ici, nous voyons la patience, c'est le vigneron qui met du fumier, et sans doute va-t-il retailler des branches, etc., émonder l'arbre, et puis cet arbre va redonner. Et c'est vrai qu'il y a des méthodes pour faire redonner un arbre qui est pauvre, qui est maigre. J'en ai un en face de moi, tout le temps, là, c'est le symbole du problème, là. J'ai connu des gens qui grattaient alentour et qui allaient chercher à l'abattoir du sang, et qui le mettaient, du sang séché, et puis qui remettaient la terre. Et figurez-vous qu'au bout de 2 ans, cet arbre-là donnait des fruits. Faut-il avoir le courage d'aller à l'abattoir chercher du sang? Ça ne sent pas bon, hein, je vous le dis. Alors, mais ça paye. Mais d'autre part, on peut mettre des algues marines, on peut mettre du fumier, etc. Donc, il y a une patience de Dieu envers nous pour que nous portions du fruit. Aucun de nous sur terre n'est né pour vivre sans porter des fruits. Ok ? Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8. C'est pour ça que l'expérience de l'amour fraternel, on doit savoir que quand un chrétien n'avance pas, ne progresse pas, ou semble stérile, il ne faut jamais douter de ce que Dieu l'ait appelé, que Dieu ait touché son cœur. Il faut donner les moyens à ce chrétien de progresser. Il faut que tout son entourage, comme frères et sœurs, sans vouloir le commander, sans vouloir l'influencer psychologiquement, lui donne les moyens de progresser. Moi, j'ai remarqué une chose, en tout cas. Chaque semaine, une visite aux chrétiens, si possible. Deuxième chose, des études bibliques avec tous les chrétiens au milieu de la semaine. Parfois 2 fois, dans certains cas. Et ce bon vaccin de la parole de Dieu guérit des cœurs et fait progresser tout le monde. Dans une paix, une fraternité et une foi, c'est pas forcément la foi intellectuelle que Dieu a demandé, c'est la foi du cœur, la vraie adhésion. Et donc, Dieu n'a pas voulu forcément qu'il y ait des grosses têtes partout. Ce qu'il y a, c'est la foi du cœur. C'est le cœur qu'il voit. Pas l'intellect, ni le vêtement, ni les apparences. Alors, dans Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, donc la confiance. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la confiance est donnée en nous par Dieu, mais elle est encouragée par les frères et les sœurs dans une église. C'est ça le bienfait d'une église. Sinon, ça sert à quoi? Si c'est pour tuer la foi des autres, les passer au congélateur, c'est inutile. Il faut se sauver. Ce n'est point par les œuvres, par les actions, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous avons été créés en Jésus-Christ, c'est-à-dire renouvelés, changés, pour faire des actions que Dieu avait déjà vues en vue. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'amour fraternel, ce mot-là, nous sommes, c'est un collectif. Ça ne s'adresse pas à des individualités, ça s'adresse à un collectif, à une communauté, à des gens qui vivent ensemble, comme frères et sœurs dans la foi en Jésus. Jean 13, verset 33-35. Jean 13, 33-35. Mes petits enfants, c'est un terme d'amour, hein, Dans l'Ancien Testament, c'était en hébreu Anawim, les pauvres de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est mes petits-enfants. Oui, avant d'être grands-enfants, il faut être petit, hein. C'est l'humilité. Je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux juifs, aux responsables juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ce n'est pas du bidon. Ce n'est pas facultatif. C'est la règle de base. La communauté d'amour. Et comme je vous ai aimé, ce n'est pas rien. Et il est évident que c'est une tâche quasiment impossible. Mais pourtant, si on se laisse gagner tous les jours par une bonne relation vivante avec Jésus, on arrive à aimer les autres dans une assemblée et à supporter les défauts les uns des autres et à pouvoir attendre et à mettre aussi du fumier au pied de l'arbre qui ne donne pas encore des fruits, c'est-à-dire à encourager. L'amour fraternel est extrêmement important. Voyons dans Jacques, épître de Jacques. Jacques, frère de Jésus. Oui, je vais devoir arrêter. On me signale que ça fait long. Alors, on vient de me téléphoner de Tombouctou pour me le dire. Jacques, chapitre 2, verset 1. Le cousin de Jésus, ou le frère de Jésus, je ne sais plus.
Le frère.
Le frère. Ça, c'est un frère, hein?
Demi-frère.
Oui, le responsable de la première église. Jacques, chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Donc vous vivez ensemble sans faire de préférence, sans faire de... Comment ? Ségrégation. Hmm ? Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Et si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Si vous dites au pauvre, tiens-toi là debout. Imaginons une église, oh, il arrive avec une belle Mercedes. Oh là 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 là, la belle. Et l'autre, il a une foutue bagnole à 2000 euros, moitié pourrie. Lequel est le plus intéressant pour l'église ? Celui-là est avocat et l'autre, il est balayeur de rue. Les amis, il est clair que dans ce message-là, il n'y a pas de ségrégation sociale. Il faut laisser de côté, dans l'Église, ces regards de division, ces a priori sociologiques. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, 1400 ans avant, Lévitique chapitre 19, verset 21, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Ça c'est clair. Remise à zéro de tous les regards, de tout jugement dans une assemblée digne de Jésus. Et on doit passer tous à la raboteuse, à la découchisseuse chez le menuisier. Le menuisier de Nazareth, Jésus, le charpentier. Passer à découchisseuse, à raboteuse. Fini toutes ces bosses-là, ces reliefs qui nous font croire qu'on est plus ou moins les uns que les autres. C'est important, les amis. Jacques, chapitre 1, chapitre 5, verset 9. Oui, oui, Tombouctou me rappelle que ça doit finir. Chapitre 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Donc Jésus est là. Jésus est là dans nos vies. Et ne vous plaignez pas les uns les autres. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Faites comme les apôtres. Encaissez. Priez pour celui qui vous fait du mal. Bénissez celui qui vous maudit. Faites encore 1000 mètres de plus avec celui qui vous en demande de faire 1000, etc. Si on vous a frappé sur la joue droite, tendez la joue gauche. Lisez Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Tous les enseignements sont là pour un changement de comportement, pour arriver à vivre comme Jésus l'a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Chapitre 5 de Jacques, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, il arrive dans une communauté que quelqu'un dégringole dans une église. Et oui, et ça peut être loin, hein, ça peut être durable. Eh bien, c'est pas pour l'enfoncer, c'est pas pour le maudire, c'est pas pour le mettre de côté. Bon, naturellement, ce qui se passe, c'est celui qui dégringole, il y a un phénomène de culpabilité, et puis parfois un phénomène d'auto-justification. Il est coincé, on n'arrive pas à lui parler, on n'arrive pas à le visiter, il ne veut pas nous voir, etc. Mais pratiquement, à un moment donné, il viendra, puisque c'est un frère, une sœur, que Dieu parle à sa conscience, à son âme, et qu'il revienne. À ce moment-là, il doit savoir qu'on l'aime et qu'on ne l'a jamais jugé, et qu'il s'est trompé. Il s'est trompé. Les frères l'aiment toujours, les sœurs l'aiment toujours. Alors, verset 19. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, donc Jésus, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Quelles que soient les choses que cet homme et cette femme ont fait, qui portaient le nom chrétien, tout cela peut être couvert par le sang de Jésus. Puisqu'il a été appelé par Jésus, Jésus est mort sur la croix pour lui, et il a confessé Jésus, il a accepté Jésus. C'est donc à nous de l'encourager à revenir à Jésus, et il faut le ramener dans la voie, c'est-à-dire dans le chemin de la parole de Dieu, dans le chemin de la vie du Saint-Esprit. Ça, c'est l'amour dans une église. C'est l'amour. C'est pas du superficiel, n'est-ce pas ? On le voit bien. On reviendra à ce sujet-là lundi à 18h, demain. Je prends encore un verset, 1 Corinthiens 13. C'est sublime. Souvent dans des mariages, même où les gens ne croient en rien du tout, mais ils veulent un mariage religieux parce que ça, les photos sont belles dans l'église, etc. Et puis, ils ont quand même un sens du sacré. Ils ne savent pas trop pourquoi, mais voilà. Et on choisit ce texte parce qu'il est magnifique. Mais c'est sans doute que Dieu déjà veut dire quelque chose, mais que les sourds ne l'ont pas compris. Les aveugles ne le voient pas. Ils peuvent le voir 15 ans ou 20 ans après. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. À l'époque de Jésus, dans le temple, on avait des instruments de ce type. Mais on peut faire beaucoup de bazar, beaucoup de bruit, beaucoup de belles louanges, et pas avoir cet agapé, ce don divin de l'amour. C'est ça, ici, la charité, c'est un mot qui vient du latin, caritas, mais en grec c'est agapé. On peut vivre, être dans une église sans avoir l'agapé, le don divin de l'amour. Alors c'est rien, on n'est rien. Quand j'aurai le don de la prophétie, de parler de Dieu, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, si je n'ai pas en moi cet amour, ce feu d'amour que Dieu a donné un jour, mais que je dois entretenir par la parole, par la prière, je ne suis rien du tout. J'ai beau porter une étiquette de chrétien, j'ai beau prétendre être quelque chose. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas charité, cela ne sert de rien. Je connais une personne qui est extrêmement dévouée et qui donne complètement jour et nuit pour les pauvres. J'en connais même plusieurs. mais elles ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ personnellement. Et ces personnes ont besoin d'un don divin, le don divin de l'amour. Cet amour qui vient d'en haut pour être heureux, même quand ils ne font rien, même quand ils passent une journée à ne rien faire pour les autres, même quand ils sont malades 15 jours au lit. Être en paix, se savoir aimé de Dieu et méditer cet amour-là, le méditer, l'apprécier et s'en émerveiller et louer Dieu et puis en déborder dès qu'on est en forme, en déborder pour les autres. C'est un amour qui vient d'en haut et il y a un amour qui déborde. Et la source en est inépuisable. Mais un amour humaniste, un amour sociologique, un amour pour se déculpabiliser, pour se désangoisser, finit toujours par la dégringolade. L'amour humain a ses limites. L'amour divin est sans limite. Voilà. De l'amour fraternel, je dois vous dire que la source est en Jésus. Demeurez dans mon amour. Alors bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je continuerai dans ce thème de l'amour fraternel demain lundi à 18h et je continuerai par une autre question. Êtes-vous certain que Satan est étranger à votre vie? Êtes-vous certain que Satan est étranger à votre vie? La question suivante est acceptez-vous l'outrage, l'offense? Comment vous comportez-vous? J'ai d'autres questions, j'en ai 22. Voilà. Que le Seigneur soit votre rayon de lumière aujourd'hui, votre source de vie, et que la joie soit dans vos cœurs pour toute la journée. Amen.